J'ai une citation pour vous ce matin pour commencer, puis pensez-y. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec ça. C'est Vernon Pierre qui écrit ceci. « Nous apprenons davantage sur nous-mêmes et sur la foi dans les moments de souffrance qu'à n'importe quel autre moment de notre vie. » Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ceux qui ont souffert savent de quoi je parle. Nous apprenons davantage sur nous-mêmes et sur la foi dans les moments de souffrance qu'à n'importe quel autre moment de la vie. Ce matin, on va parler de la souffrance, puis on est dans le contexte de notre série Contre-culture. Et tout le long de la série, la question qu'on se pose, qui revient avec différents sujets, c'est comment est-ce que Dieu, comment est-ce que Jésus-Christ appelle cette assemblée à grandir, à changer, pour être davantage à son image puis apporter une saveur nouvelle, un éclairage nouveau dans le monde. Et s'il y a un endroit, s'il y a un domaine où l'Église peut faire une différence, c'est dans le domaine de la souffrance. La souffrance, tout le monde en vit. Vous avez des gens autour de vous, si ce n'est pas vous-même qui êtes en train de souffrir physiquement, des gens autour de vous qui passent par le deuil, des situations, des relations qui sont difficiles. On est tous appelés à un degré ou à un autre à souffrir et à voir des gens autour de nous souffrir. Puis on est à un moment dans l'histoire de l'Occident où la relation à la souffrance est comme remise en question. Je ne sais pas si c'est juste de le dire comme ça, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une quête, la philosophie c'est ne plus souffrir à tout prix. Tous les prix sont possibles de payer pour s'assurer qu'il n'y aura plus de souffrance dans l'expérience humaine. Puis quelques semaines, j'écoutais l'émission « Tout le monde en parle » et puis il y avait un invité qui était là atteint de la maladie de Lou Gehrig. Certains d'entre vous ont peut-être vu l'émission. C'est une maladie absolument terrible. C'est une maladie sur le plan physique qui est débilitante. Progressivement, tu perds toutes tes capacités musculaires jusqu'à mourir finalement de ne plus être capable de respirer. Mais donc, c'est extrêmement incapacitant. Et puis, il y avait cet homme-là qui était atteint de ça, puis un monsieur charmant. Maintenant, il est au début de sa maladie, et donc il a commencé à perdre un certain usage de ses jambes, besoin d'une marchette pour se déplacer. Donc, il sait ce qui s'en vient. Mais à un certain moment donné, il a dit une phrase, puis ça m'a bouleversé. Il m'a dit, « Moi, si j'avais le droit maintenant au suicide assisté, c'est maintenant que je veux mourir. » Parce que je suis trop fier pour me voir dégénérer davantage que ça. Et ça m'a troublé. Ça m'a troublé parce que pour moi, c'était vraiment une image qui résumait bien le rapport que l'Occident a à la souffrance. Je peux me tromper, mais c'est vraiment mon sentiment qu'on cherche par tous les moyens possibles à éviter de souffrir. Puis d'un autre côté, lorsqu'on lit les Écritures, on voit la souffrance qui est là à travers toutes les Écritures. On voit un appel sur les chrétiens. C'est ça qu'on va se parler ce matin. Puis on a des passages qui sont d'un autre côté complètement à l'extrême. Puis tu dis, comment est-ce que Dieu peut écrire ça? Comment est-ce que Paul peut écrire ça en connaissant la souffrance des gens? Dans 1 Thessaloniciens 5, voici ce qu'il écrit. « Soyez toujours joyeux. » Toujours joyeux. Et Paul a connu la souffrance. Plus probablement qu'aucun d'entre nous. « Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. » Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » À quelque part, dans ce sujet-là, cette question-là de la souffrance, l'Église de Jésus-Christ a l'opportunité de briller et d'apporter un éclairage nouveau en Occident, un éclairage nouveau autour de nous, une saveur nouvelle pour pouvoir vivre et traverser la souffrance. Et ce matin, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans un tout petit livre de l'Ancien Testament, Habacuc. Jérémie va nous lire ça dans un instant. Le contexte, c'est qu'Habacuc est prophète, donc Dieu lui a révélé des choses qui viennent pour Israël, et Dieu va libérer Israël, qui sont sous des oppresseurs. Mais Habacuc sait que ça va se passer à travers des attaques armées. Donc, il sait à l'avance qu'il va y avoir des attaques qui vont venir contre son peuple et qui vont venir frapper la terre, qui vont venir frapper les gens. Et donc, il y a beaucoup de souffrance qui est annoncée, puis comme prophète, il le sait d'avance. Soyez bien attentifs. On voit comment Habacuc appréhende cette épreuve-là pour sa nation et pour lui-même. On va écouter la parole de Dieu.
Le passage biblique de ce matin est tiré d'Habacuc, au chapitre 3, versets 13 à 19, dans l'édition second 21. Donc Habacuc, chapitre 3, versets 13 à 19, dans l'édition second 21. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer celui que tu as consacré par onction. Tu brises le faîte de la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble. Tu transperces de leurs propres flèches la tête de ces chefs qui se précipitaient comme une tempête pour nous disperser. Ils poussaient des cris de joie, comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leur repaire. Avec tes chevaux, tu parcours la mer, le bouillonnement de grandes eaux. J'ai entendu et je suis tout bouleversé. À cette voix, mes lèvres tremblent. La pourriture vient dans mes os et mes jambes tremblent. Sans bouger, j'attends le jour de la détresse, le jour où notre assaillant marchera contre le peuple. En effet, le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes hauteurs.
Merci, Jérémie. C'est un sujet difficile. Comme j'ai mentionné, plusieurs d'entre vous souffrez. Vous avez vu des gens souffrir autour de vous. Ça fait partie de l'expérience humaine. C'est la réalité de l'expérience humaine, souffrir. Cette semaine, je suis allé visiter Mme Grenier à l'hôpital Hermance Grenier, atteinte d'un cancer, puis ça progresse quand même rapidement. Et on a passé du temps ensemble. On a pleuré ensemble, on a ri ensemble, on a pris le temps de partager ce qu'elle est en train de vivre. Si vous voulez prier pour elle, priez pour que Dieu dispose son cœur à accepter d'aller maintenant dans une résidence pour des soins palliatifs. C'est vraiment le désir de la famille puis le désir du corps médical. Alors, priez pour ça, s'il vous plaît. Et ça, c'est la réalité. La réalité, c'est que nous sommes appelés à souffrir à un moment ou à un autre. Puis on va avoir des proches autour de nous, que ce soit des souffrances psychologiques, physiques, que ce soit dans la santé, que ce soit les épreuves de la vie, que ce soit les relations. Et ce matin, on va voir ensemble que la souffrance fait partie de la vie, mais pour le chrétien, la joie dans la souffrance, c'est possible en Jésus-Christ. On va prier ensemble. Père, on veut ce matin élever ton nom et te remercier d'être ici avec nous, d'être présent au milieu de nous par ton esprit, Seigneur, au milieu de cette assemblée. Père, je veux t'adorer parce que tu n'es pas indifférent aux souffrances des hommes. Seigneur, nous qui sommes chrétiens, nous le savons plus que quiconque sur la terre parce que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ sur la terre, qui est venu vivre comme un homme, qui est venu souffrir de voir ses amis mourir, d'être méprisé, d'avoir des relations extraordinairement difficiles et même de souffrir physiquement de manière atroce jusqu'à la mort. Seigneur, merci de communier à nos souffrances par ton expérience, Jésus, et par ton esprit qui habite en nous. Merci pour l'Église, Seigneur, qui est là pour souffrir ensemble, pour porter les fardeaux les uns des autres. Ce matin, Père, je veux te demander de venir nous instruire, nous enseigner, nous préparer, nous équiper afin que l'Église apporte une lumière nouvelle, un regard nouveau dans une société qui vit un profond malaise avec la souffrance. Une société qui, semble-t-il, veut éviter à tout prix la souffrance. Et pourtant, Seigneur, nous reconnaissons qu'il y a souvent une œuvre puissante que tu fais dans nos cœurs, dans nos vies, à travers la souffrance même. Alors viens, parle-nous ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. 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 La joie dans le désert. Alors, le contexte d'Habacuc, vous pouvez tourner avec moi si vous n'y êtes pas déjà. Le contexte d'Habacuc, comme je le dis, c'est la souffrance s'en vient. La souffrance s'en vient pour son peuple, pour sa nation. Et puis, Habacuc est très, très loin d'être indifférent à ce qui s'en vient comme souffrance. On lit au verset 16. « J'ai entendu. » Il sait qu'est-ce qui arrive là. L'annonce de la souffrance à venir a été faite et il a très bien compris ce qui s'en vient pour son peuple comme souffrance. « J'ai entendu et mes entrailles se sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent. Il y a mal dans son corps, dans ses os. Mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Non seulement il va souffrir, mais ça lui a été fait, ça lui a été annoncé. Et donc, il sait très, très bien ce qui est devant eux. Et il va voir sa nation, son peuple souffrir. Et il est angoissé de cela. Il appréhende ça dans ses tripes. Il est angoissé de savoir ce qui attend sa nation, son peuple. Les gens qu'il aime vont souffrir. Et il souffre déjà dans l'anticipation de ce qui s'en vient. Ça ressemble à notre expérience souvent, hein? Lorsqu'on voit nos enfants qui s'en vont peut-être avec des mauvais choix, puis on sait qu'ils vont souffrir. Lorsqu'on a l'annonce de quelqu'un qui est atteint d'une maladie, puis on dit, aïe, aïe, les mois qui sont devant nous, les mois qui sont devant lui. Lorsqu'on apprend que des gens autour de nous vont souffrir, on voudrait les protéger, puis à l'intérieur de nous-mêmes, on n'est comme pas bien, on voudrait être là pour eux. Et on vit dans cette attente-là de la souffrance. Ça va être quoi la souffrance qu'ils vont vivre? Regardez le verset 17. « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœuf dans les étables. » Un pays qui va être ravagé par la guerre, par la violence, par la pauvreté qui est engendrée par la guerre. On en voit toutes les semaines dans les médias, on a des images de ça à toutes les semaines, des villes qui ont été, des bâtiments qui ont été attaqués par des obus, par des armes à feu, puis qui tombent en ruine. Et on voit des villes dévastées, qui pourraient être notre ville si c'était ici que ça se passait. C'est une souffrance bien réelle qui attend son peuple. Qu'est-ce que Habacuc va faire avec ça? C'est vraiment intéressant parce qu'il est dans l'anticipation de la souffrance. Il attend la souffrance à venir, puis Habacuc fait un choix. Il prend une décision à lui-même. Il sait avec certitude que ça va se produire, mais il prend une décision à lui-même. Il fait un choix de ne pas s'arrêter aux circonstances et de tourner ses regards constamment vers la personne de Dieu. Regardez le verset 18. « Toutefois, je veux me réjouir. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Voyez-vous, pour les chrétiens, avoir de la joie dans la souffrance, c'est pas qu'on nie la réalité, c'est pas qu'on oublie ce qui va se passer du tout. Au contraire. On accepte la réalité, puis on accepte que la souffrance va venir. Ce n'est pas qu'on a un sourire fendu jusqu'aux oreilles, puis on fait comme s'il n'allait rien se passer. Mais Habacuc prend une décision. Et lorsque la souffrance vient, il y a une décision à prendre. Il y a un choix à faire qui va peut-être devoir être répété 1000 fois, peut-être devoir être répété 2000 fois, peut-être devoir être répété de jour en jour, d'heure en heure. Mais Habacuc prend une décision. Il prend la décision de se tourner vers son Dieu et de regarder à Dieu, choisir de trouver sa joie dans sa relation avec Dieu à travers la souffrance. Habacuc 3:19, « L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. La montagne de la souffrance est devant lui. » Mais il dit, Dieu va me porter, puis je vais être comme une biche qui traverse la montagne. Les épreuves sont énormes, on ne sait pas comment on va traverser ça. Mais j'ai cette foi-là que mon Dieu va me porter comme une biche à travers la montagne. On va passer, on va surmonter cette épreuve-là. On va la traverser ensemble avec Dieu. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Habacuc savait que l'Éternel était son Seigneur. Et donc, il ne pouvait pas appréhender puis voir la souffrance comme le reste des hommes peuvent le voir, qui vont conjurer le sort puis qui vont dire « mais quel mal m'arrive ». parce qu'il sait que Dieu est souverain et il sait que la souffrance qui s'en vient est dans les desseins de Dieu. C'est dans les plans de Dieu que son peuple va souffrir. Et donc, il y a un choix à faire et le choix qu'il fait, c'est de ne pas regarder aux circonstances, mais de regarder à Dieu. Et lorsque la souffrance se présente à notre porte, quelque forme qu'elle prenne, que ce soit dans des relations humaines, que ce soit une souffrance physique, que ce soit des épreuves de la vie, que ce soit des circonstances qui tournent mal contre moi, j'ai une décision à prendre à ce moment-là. Habacuc a fait le choix à ce moment-là de ne pas regarder aux circonstances, puis de s'appuyer sur sa communion, sur sa relation avec Dieu. Parce qu'il sait que l'Éternel est son Seigneur. Parce qu'il sait que la délivrance, si elle doit venir, elle vient de Dieu. Le salut vient de l'Éternel. La délivrance ne viendra pas des hommes, elle va venir de Dieu. Et il a cette conviction-là. Et il a la conviction que Dieu va lui accorder la force pour traverser cette montagne-là. Dieu va le porter comme une biche qui s'élance sur la montagne, qui monte à flanc de la montagne, puis qui saute de rocher en rocher. Il a cette conviction-là. Et pour cette raison-là, il fait le choix de la joie. C'est ça qu'il dit, hein? Je veux me réjouir. Pas de la souffrance. Les chrétiens ne ferment pas les yeux sur la souffrance, on nie pas la souffrance, on n'est pas des masochistes, on ne prétend pas que ça ne viendra pas la souffrance. Je veux me réjouir, pas dans la souffrance, une source de tristesse, mais en Dieu qui est souverain, en Dieu qui a quelque chose pour moi à travers ça, en Dieu qui va me porter à travers ça, en Dieu qui est mon espérance, mon espoir. Habacuc a fait le choix de la joie. Littéralement, je veux me réjouir. Habacuc a fait le choix de la joie parce qu'il connaît sa relation avec Dieu. Et cette relation-là est essentielle. C'est la conviction que Dieu aime Israël. Et pour moi, comme chrétien, c'est la conviction que Dieu m'aime, que Dieu est près de moi et il m'a à cœur. Tim Keller dit, « La souffrance est insupportable si vous n'êtes pas certain que Dieu est pour vous et avec vous. » On va parler des doutes dans quelques instants, mais retenez ceci, la souffrance est insupportable si vous ne savez pas que Dieu est avec vous et pour vous. Voici ce qu'il dit ailleurs, toujours Tim Keller. Le christianisme enseigne, contrairement au fatalisme, que la souffrance est difficile. Contrairement au bouddhisme, que la souffrance est réelle. Contrairement au karma, que la souffrance est souvent injuste. Mais contrairement aussi à la pensée séculière, que la souffrance a un sens. Il y a un but. Et s'il est approché en Dieu, il peut nous conduire beaucoup plus loin dans l'amour de Dieu et dans une maturité et une puissance spirituelle que vous ne pouvez imaginer. Il y a un but à la souffrance. Et si à travers cette souffrance-là, par la grâce de Dieu, je fais le choix de m'accrocher à Dieu, de me tourner vers Dieu, d'embrasser cette épreuve-là en disant, « Seigneur, tu es avec moi, c'est toi qui vas m'accompagner à travers ça. » Vous allez avoir l'opportunité, la possibilité à ce moment-là de découvrir des choses sur Dieu que vous n'auriez pas pu découvrir autrement. De découvrir une foi en vous que vous n'avez pas connue avant. De grandir dans votre cheminement avec Dieu d'une manière que vous ne pourriez pas imaginer. Parce que Dieu ne gaspille pas la souffrance de ses enfants. Parce que Dieu ne gaspille pas les épreuves qu'il permet dans nos vies. Et comme chrétiens, nous savons que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, 38, 39. Comme chrétiens, nous savons que Dieu est bon et que tout ce qu'il permet dans notre vie contribuera à notre bien. Même quand au milieu de l'épreuve, au milieu de la souffrance avec Christ, tout ce que j'ai, c'est pourquoi? Pourquoi, Père, m'as-tu abandonné? Parce que la souffrance est tellement grande, est tellement énorme. C'est juste un pourquoi. Dans ma tête, ça résonne. La souffrance résonne tellement fort. Ça bourdonne tellement fort dans ma tête que j'arrive plus à raisonner de manière sensée. Voir si Christ ne savait pas pourquoi. Mais à ce moment-là, au moment où il est fait pécher, La souffrance est tellement horrible, c'est inconcevable pour nous d'imaginer ce qui s'est passé entre le Père et le Fils lorsque Christ est fait péché. Et à ce moment-là, celui qui a la connaissance infuse, celui qui connaît le pourquoi de toute chose, Jésus-Christ, il l'a montré à travers tout son ministère avec une sagesse incomparable. À ce moment-là, la souffrance est tellement lourde, ça bourdonne tellement à l'intérieur la réalité du châtiment pour le péché qui vient l'accabler, l'amène à crier pourquoi. Mais il connaît son Père et il sait qu'il va être fidèle. Et il meurt en disant, tout est accompli. Tout est accompli. Ta volonté, Père, est accomplie. Et donc, comme chrétien, je sais que Dieu est bon et que tout ce qui permet dans ma vie contribuera à mon bien. Je sais que Christ est avec moi dans la souffrance et qu'un jour, je vais le voir face à face. Et j'attends cette nouvelle création où il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de larmes. Alors, quelques questions pour nous faire réfléchir, juste pour nous amener plus loin personnellement, individuellement. Est-ce que ta relation actuelle avec Dieu te prépare à la souffrance? Est-ce que ta communion actuelle avec Dieu, le temps que tu peux passer dans la parole de Dieu, dans la prière, à partager avec des frères et sœurs, à édifier ta foi, lorsque tu viens ici et tu reçois le message, lorsqu'on chante des louanges, est-ce que ta relation avec Dieu te prépare à la souffrance? Ce serait vraiment une bonne idée parce que ça s'en vient. Ça s'en vient. On est tous appelés à souffrir. Comme Église, comme Assemblée, est-ce qu'on prend le temps de se préparer ensemble, dans nos petits groupes, lorsqu'on partage, lorsqu'on échange ensemble? Est-ce qu'on prend le temps de se préparer à souffrir? Puis à accueillir ceux qui sont en train de souffrir. Est-ce qu'on est une église où il y a cet espace-là, où les gens peuvent venir déverser leur cœur, puis ils ne vont pas se faire rabrouer par les amis de Job avec un petit sermon rapide? La foi d'Habacuc, pour qu'il arrive à ce moment-là, puis il sait que la souffrance s'en vient, il a fallu qu'il l'exerce avant. Sa foi, il l'a exercée à tous les jours. Et à tous les jours, j'ai des opportunités d'exercer ma foi, j'ai des défis qui sont placés devant moi, des défis d'obéissance, d'attitude, de service, de renoncer à certains péchés. J'ai des opportunités d'exercer ma foi à tous les jours, à tous les jours. Et donc, pour qu'Habacuc reçoive ce message de Dieu, il sait que la souffrance va être terrible, qu'il arrive à cet endroit-là où il prend cette décision-là, c'est qu'Habacuc a exercé sa foi. Et tu as l'opportunité, j'ai l'opportunité à tous les jours d'exercer ma foi, de me préparer pour le jour où ça viendra. Habacuc a fait ce choix-là. Lorsque la souffrance se pointe à ta porte, à quelque part, l'Esprit de Dieu te pose la question, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux à travers cette souffrance-là? Habacuc dit, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux choisir la joie. Je veux me confier en lui. Je ne suis pas en train de dire que c'est une formule magique. Hein? Je ne suis pas en train de dire que parce que tu as pris une décision, ça va bien aller. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je peux pas prendre ma décision maintenant pour demain. Je dois la prendre pour maintenant avec l'épreuve de maintenant. Et donc, je dois prendre une décision. Encore une fois, ce matin, en recherchant la joie dans la souffrance, on ne cherche pas à nier la souffrance. Au contraire. Au contraire, justement, peut-être que les églises ne parlent pas assez de la souffrance. Peut-être qu'on ne se prépare pas ici suffisamment dans l'église à la souffrance. La souffrance fait partie de la réalité de la vie chrétienne. La réalité de la souffrance chrétienne. Dans Matthieu 16, verset 24, voici ce que Jésus dit. « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » C'est encore Tim Keller qui dit, « Peu importe les précautions que nous prenons, peu importe si nous nous sommes construits une bonne vie, peu importe à quel point nous avons travaillé fort pour être en bonne santé, avoir une vie aisée, confortable avec les amis, avec la famille, pour avoir du succès dans notre carrière, quelque chose va inévitablement tout ruiner. » Il y a au moins la mort qui t'attend, tu comprends? Et donc, dans cette vie, il y a quelque chose à un moment donné qui va tout scraper, c'est sûr. Mais dans notre cas à nous, comme chrétiens, ce n'était pas écrit en petit caractère. C'est écrit en gros caractère. Notre modèle est mort crucifié. Ça ne peut comme pas être plus clair que ça, vous comprenez? Ça veut dire qu'il est ressuscité. Amen! Nous aussi, on va ressusciter. Et on va peut-être prendre notre croix, nous aussi. Et donc, Jésus est super explicite. Tu deviens chrétien, la souffrance va venir avec. Peut-être même plus de souffrance que les non-chrétiens. Peut-être plus de souffrance parce que les chrétiens sont parfois persécutés. C'est la réalité de l'expérience chrétienne. À partir du moment où Adam et Ève chutent, Dieu maudit le monde. Et la réalité de la nature pécheresse, mais d'un monde maudit, fait que la souffrance fait partie de l'expérience humaine. Maintenant, pour les chrétiens, c'est quelque chose qui nous est annoncé. La souffrance est normale pour le chrétien, qui est peut-être même appelé à souffrir davantage que les non-chrétiens, parce que le chrétien veut faire le bien et puis va prendre des ressources que le non-chrétien ne prendra pas des ressources que le non-chrétien va prendre pour ne pas souffrir, par exemple. On est en train de parler de suicide assisté maintenant. Donc, c'est une chose de médicamenter la fin de la vie d'une personne pour atténuer ses souffrances. C'est une autre chose de choisir la mort pour éviter la souffrance. Ça, c'est vraiment quelque chose de très différent. Peut-être que le chrétien va être appelé à souffrir plus que les gens autour de lui parce qu'on va faire face à de l'opposition morale. Parce que je suis au travail, puis la job est déjà difficile, la job est déjà exigeante, la compagnie a des défis énormes, on travaille super fort, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui décide de couper les coirons, puis de faire quelque chose d'illégal, puis ton boss te dit « fais quelque chose d'illégal ». Puis là, toi, tu vas dire « je suis désolé, moi, je peux pas faire ça. Moi, je vais pas faire ça ». Tu t'ouvres une compagnie, puis tu décides que tu vas être « legit ». Tu vas faire les choses selon la loi. T'aimes ça le trouble. T'aimes ça le trouble. Tu travailles dans la construction puis tu ne travailleras pas au noir. T'aimes vraiment ça le trouble. Ça ne te tente pas de travailler? Donc, on va faire face à de l'opposition morale parce qu'on choisit le bien. Ça vient avec. Ce n'est pas écrit en petit caractère, c'est écrit en gros caractère. Nous pouvons et nous serons méprisés ou persécutés parce qu'on annonce l'Évangile. Et devant cette souffrance-là, chacun va avoir des réactions différentes. On peut devenir inquiet, on peut devenir anxieux, que ce soit la souffrance physique, toutes les formes de souffrance. On peut avoir des peurs de ce qui va se passer. On anticipe déjà, un peu comme Habacuc, tout ce qui s'en vient. Puis là, je peux rester à cet endroit-là dans la peur. On peut vivre du découragement, du désespoir qui peut s'installer dans notre cœur. On peut être fâché contre Dieu, tellement fâché contre Dieu. Parce qu'on sait, on croit vraiment que Dieu est souverain. On peut devenir cynique envers la vie, cynique envers la foi. Certains vont commencer à devenir super religieux. Alors là, ils deviennent tout d'un coup, là, la souffrance en vient, ils deviennent super religieux en espérant que Dieu va les bénir. Parce que là, ils ont complètement changé leur comportement. Puis là, ils vont s'acheter une bénédiction qui va faire que Dieu ne permettra pas la souffrance dans leur vie. Tu peux prier pour que Dieu enlève la souffrance puis te l'évite. Mais ce n'est pas parce que tu commences à réciter des prières que tout d'un coup, Dieu va t'éviter ça. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui l'ont appelé selon son dessein. Et si Dieu a décidé que c'était le sentier par lequel j'allais passer, il va me faire passer par là. Et parfois, ça va susciter des doutes dans notre âme, dans notre cœur. Des doutes réels, profonds, qui peuvent venir s'installer. On peut se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, puis Dieu a décidé de s'en prendre à nous. Ben, il y a lieu, quand la souffrance vient, d'aller dans la prière, de demander conseil, puis de demander à des amis proches, des bons conseillers. Est-ce que Dieu est en train de me parler? Y a-t-il quelque chose qu'il veut que je corrige? Est-ce que c'est une correction de Dieu? C'est possible. Mais il y en a qui vont vraiment adopter cette vision de ça, qui dit, Dieu a quelque chose contre moi. Dieu a décidé de s'acharner contre moi. Et donc, il n'y a pas la possibilité de voir à travers la souffrance encore une grâce de Dieu pour me transformer, me faire grandir. Certains vont douter en se disant que Dieu est en train de les punir ou se sentir abandonné par Dieu, sentir que Dieu est loin, alors que Dieu est peut-être plus près que jamais là à côté de toi lorsque tu es en train de souffrir. Certains vont en venir à douter de l'existence même de Dieu. Est-ce que vous avez connu un chrétien, une chrétienne, qui a été un modèle pour vous à travers la souffrance? Est-ce que vous avez connu quelqu'un qui vous a édifié à travers la souffrance? Qu'est-ce qui vous a marqué chez cette personne-là? Son attitude, alors qu'il y avait de la douleur physique, son attitude devant les épreuves. C'était quoi les réflexes de cette personne-là? Qu'est-ce qui habitait dans son cœur? Parce que tout le monde vit des doutes, tout le monde vit des difficultés. J'ai vu des gens souffrir énormément. Ils se confiaient en Dieu. Est-ce que vous avez eu un modèle comme ça? Vous savez, une des plus belles manières d'apprendre à travers la souffrance, c'est de visiter les gens qui souffrent, de visiter des chrétiens qui sont en train de souffrir, juste de vous approcher d'eux, de prendre soin d'eux. On a un ministère à l'Église, le ministère Barnabas. Ces gens-là vont appeler, visiter des gens qui sont absents, qui sont hospitalisés à long terme des fois. Puis ils arrivent, puis ils sont comme des anges de Dieu lorsqu'ils arrivent, puis ils viennent prendre soin des gens. Puis ces gens-là, à mon avis, à moi, dans mon expérience de pasteur, c'est les plus bénis des deux. Parce que souvent, on part de ces rencontres-là tellement encouragés, tellement édifiés dans notre foi. Je vous dis, vous voulez vous préparer à souffrir, allez vous impliquer dans le ministère Barnabas. Allez visiter, vous entendez qu'il y a un frère, une sœur qui est hospitalisé, vous entendez qu'il a perdu son emploi, vous entendez qu'il vit des moments difficiles, donnez-lui un coup de fil, allez prier avec lui, accompagnez-le à travers ça. Dieu va vous bénir, va vous faire grandir à travers ça. Il va vous former vous-même, vous façonner. Et voyez-vous, pour les chrétiens, la souffrance pour nous, c'est juste comme dans une trajectoire. J'aime vraiment cette image-là. Pensez à Christ. La souffrance était là sur le chemin de Christ de manière inévitable. C'était au cœur de sa mission. Il devait aller souffrir. Il devait aller là. Mais il y avait une trajectoire. La trajectoire de Christ, ce n'est pas la croix. Voyez-vous, l'objectif, ce n'est pas la croix. L'objectif, c'est la gloire. L'objectif, c'est la gloire avec son Père. L'objectif, c'est d'aller dans la gloire et d'amener avec lui des fils et des filles dans la foi, des frères et des sœurs qui vont entrer avec lui dans la gloire. J'aime bien cette citation-là de Vernon Pierre qui dit « Rappelez-vous que le chemin normal de la vie chrétienne, c'est à travers la souffrance, vers la gloire. C'est le chemin que Christ nous a montré. » C'est ça le chemin de Christ. À travers la souffrance, vers la gloire. Et encore une fois, ce n'est pas qu'on se glorifie de la souffrance. Ce n'est pas qu'on tripe sur la souffrance. Ce n'est pas qu'on pense qu'il y a des vertus où je gagne des mérites à travers mes souffrances, puis je fais pénitence, puis là je suis en train de me flageller, puis je m'impose moi-même volontairement de la souffrance. Non, si tu t'imposes toi-même volontairement de la souffrance, à part pour jeûner puis chercher la face de Dieu, là, tu es un cocon. OK? Tu es un cocon. Ce n'est pas ça l'idée. Mais les souffrances viennent. Les souffrances viennent. Puis à travers ces souffrances-là, Christ nous transforme. Et donc, la trajectoire pour le chrétien, notre trajectoire, notre direction, là où on va, tout simplement ce qu'on fait, c'est qu'on suit Jésus-Christ. Et donc, la souffrance est sur le parcours. Vous allez me dire, c'est sur le parcours de l'expérience de tous les êtres humains, c'est vrai. Mais pour nous, ce n'est pas la même chose comme chrétien. Parce que j'ai la ferme conviction que mon Père qui est dans les cieux a placé des choses qui sont devant moi, des choses qui vont être heureuses, qui vont être bonnes, mais d'autres qui vont être souffrantes et qui vont être difficiles. Dans un mystère souvent que je ne peux pas expliquer, en quoi Dieu veut se glorifier à travers ça, souvent je ne le sais pas. Souvent je ne le sais pas. Puis je peux vivre de la confusion à travers des doutes. Je peux vivre vraiment à travers toute la souffrance. Mon esprit devient carrément embrumé, puis je n'arrive pas à trouver du sens à travers tout cela. Mais ma trajectoire, c'est la gloire. Ma trajectoire là où je m'en vais, c'est la gloire avec Dieu. Amen. C'est là qu'on s'en va. Croyez pas ça? C'est là qu'on s'en va. On s'en va dans la gloire avec Christ. Et ça, c'est ma trajectoire à travers la souffrance. Et donc, je ne veux pas, quand la souffrance se présente dans ma vie, perdre de vue la trajectoire, la direction où je suis en train de m'en aller. On lit dans Hébreux 2, 18, « Car ayant été tenté lui-même, dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Christ a vraiment compassion de nous. Il nous a invités à le suivre, mais ça veut dire qu'il nous a précédés. Puis dans toute son humanité, il nous a précédés. Et donc, il a compassion de nous, il a été tenté en tout point à travers la souffrance même. Et donc, il a vraiment compassion, il peut prendre soin de nous, être avec nous. Donc, d'une part, il a compassion, il comprend, puis d'autre part, il est le modèle. Puis là, il intercède auprès du Père, puis il nous prépare une place avec la fin de cette trajectoire-là où je vais être avec lui dans la gloire. Fait que je vous pose quelques questions encore. Quelles sont des choses que nous faisons comme Église ou comme chrétiens qui n'aident pas les gens qui souffrent? Peut-être qu'on n'est pas prêt à entendre et écouter et écouter et écouter encore les gens qui souffrent, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des choses qu'on fait comme Église qui n'aident pas les gens qui souffrent? Vous savez, on dit qu'on veut être une Église accueillante, puis Dieu transforme cette Église-là. J'ai constamment des témoignages de la chaleur et de l'accueil de cette Église-là. Mais on veut définitivement être accueillant avec les gens qui souffrent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les écouter? Ça veut dire leur donner mon regard lorsqu'ils sont en train de me partager ça? Ça veut dire me taire plutôt que de les juger lorsque ce qu'ils commencent à dire ne fait pas de sens, ce n'est pas biblique, ce n'est pas la bonne manière de voir? Monsieur le moralisateur, ferme ta boîte, puis écoute la souffrance. Un temps va venir pour prier, pleurer ensemble, puis ouvrir les Écritures. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a à changer comme Église pour être vraiment accueillant? On a vu quelques semaines qu'on veut être une Église généreuse. On veut être généreux. Bien sûr, on peut être généreux en donnant notre argent, en aidant avec notre argent, mais on peut être généreux avec les gens qui souffrent. Un cœur qui est généreux, qui accueille la personne qui souffre. Cette semaine, discutez de ça dans votre petit groupe. C'est quoi la culture de votre petit groupe? Est-ce que cet accueil-là dans votre groupe, est-ce que cette générosité qui fait que les gens peuvent s'ouvrir dans votre groupe de quartier? Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ton groupe qui souffre, mais tu vois qu'il ne partage jamais, il ne va jamais là. Peut-être qu'il a besoin que tu prennes un café avec lui. Peut-être qu'il y a un collègue de travail, quelqu'un autour de toi, dans ta famille, chez tes voisins, un ami à l'école, qui souffre, qui ne va pas bien, puis la timidité ferait que, écoute, j'ai peut-être pas le droit d'aller là. Cette semaine, Esther prenait un cours, mon épouse prenait un cours, puis à la fin du cours, elle parlait avec d'autres étudiants, puis il y a une dame qui a commencé à partager des situations qu'elle vivait avec un problème de santé, et puis elle est convaincue que l'équipe au travail fait tout pour s'assurer qu'elle donne sa démission. Convaincue de ça. Puis Esther l'a écouté comme Esther s'est écoutée, puis elle a manifesté de la compassion, comme elle s'est manifestée de la compassion, mais à la fin, elle a eu la sagesse de dire, écoute, moi je suis croyante, fait que si tu permets, je vais prier pour toi. Là, cette personne-là est allée à un autre niveau complètement. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point les gens sont réceptifs lorsqu'ils souffrent si on leur dit, tu permettrais-tu que je prie pour toi? Moi je suis croyant, j'aimerais ça prier pour toi cette semaine. Et peut-être même que la personne va tellement être là que tu vas dire, tu veux-tu que je prie maintenant pour toi? Elle n'est pas chrétienne, peut-être même pas croyante, peut-être même athée. Mais là, cet endroit-là va être prêt à recevoir ça. Peut-être que Dieu t'appelle à faire ça cette semaine, à offrir de prier avec une personne autour de toi. Maintenant, revenez dans Habacuc. Revenez dans Habacuc avec moi parce qu'il y a une perle, il y a un trésor. Puis, tout à l'heure, on ne l'a pas lu, on a gardé ça caché, mais je vous le lis là, à la toute fin. Habacuc termine au verset 19. « L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. » Et regardez bien après, ça a de l'air technique ce qui est écrit. C'est super important. Au chef des chants avec des instruments à cordes. Tout ce que Habacuc a écrit jusqu'ici était destiné à être chanté en assemblée. Tout ce que Habacuc a écrit ici sur la souffrance qui s'en vient, sur la peur, la souffrance intérieure qu'il vit déjà en anticipation. Mais sa décision aussi, son choix, sa décision de se réjouir en Dieu. C'était un chant d'assemblée, cette affaire-là. Voyez-vous, vous n'êtes pas appelé à vivre la souffrance seule. On est appelé à chanter notre souffrance comme chrétien. On est appelé à vivre ça en Église. On est appelé à partager. C'est l'apôtre Paul qui dit dans Galates 6:2, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » La souffrance, c'est quelque chose que tu es appelé à vivre avec le peuple de Dieu. Et lorsque tu restes là dans ton coin, tu es peut-être en train de te priver de cette grâce-là. Peut-être que c'est la première fois que tu viens dans une église ce matin. Peut-être que tu n'allais pas dans une église depuis des mois, puis tu trouves une assemblée. Joins-toi à nous. Joins-toi à nous. Je te le dis, on souffre, nous autres. Il n'y a personne de parfait ici, puis on vit des épreuves, puis on vit des difficultés, mais on les vit ensemble. Amen! On les vit ensemble! Dans nos petits groupes, dans nos réunions, lorsqu'on partage, lorsqu'on s'accroche, lorsqu'on chante des chants, on lit dans Éphésiens 5, 19, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » C'est pour ça qu'on chante en Église. On chante en Église pour s'instruire, pour parler à nos cœurs, relever nos cœurs, les ramener vers Dieu. Que celui au milieu de nous qui est en train de souffrir, puis qui est là, puis qui ça bourdonne dans sa tête, il n'est pas capable d'entendre la voix de l'Esprit qui le ramène vers Dieu, avoir confiance. J'ai choisi, je veux me réjouir, je choisis la joie dans le Dieu de mon salut. Et il vient ici en assemblée, puis il entend vos voix autour de lui qui sont en train de chanter à plein poumon, à gorge, déploie. Voyez les gloires de Dieu, la louange de Dieu. Son cœur est élevé, son âme est élevée. Amen! Son cœur est élevé vers Dieu. C'est pour ça qu'on chante des louanges. C'est pour ça qu'on se réunit en assemblée. C'est pour ça qu'on se réunit en petit groupe. C'est pour ça qu'on fait des cours ensemble. Priez pour les dirigeants de louanges de l'Église. Ces gens-là ont un travail énorme. Un travail extrêmement important. On fait pas, on brode pas autour du message, hein. Vous comprenez? C'est pas une introduction musicale puis une conclusion musicale parce qu'il y a un message entre les deux puis il faudrait comme avoir un package pour que ça ait de l'allure. Les chrétiens chantent pas pour ça. S'ils chantent pour ça, ils ont rien compris. Non, ces gens-là doivent veiller sur leur cœur, préparer leur cœur à venir conduire le peuple dans l'adoration, dans la louange ensemble. Priez pour nos équipes de musique qui sont là, qui travaillent super fort pour leur foi, pour leur cœur à eux. Parce qu'ils ont une énorme responsabilité. Priez pour nous qui vous enseignons. Mais vivons notre souffrance, nos souffrances, ensemble en Église. Et chantons ensemble ces chants à la gloire de Dieu. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. On va chanter ensemble. J'espère que les chants vont prendre une autre perspective ce matin. Plus de profondeur. Certains d'entre vous, vous n'allez peut-être pas chanter, vous allez peut-être être en silence parce qu'il y a trop de souffrance pour chanter. Amen. Laissez-vous porter par les chants des gens, les voix des gens autour de vous. Recevez le message que l'Esprit est en train de donner à vos cœurs ce matin à travers la louange. La souffrance fait partie de la vie, mais la joie dans la souffrance est possible avec Jésus-Christ. Alors, rappelez-vous que le chemin normal de la vie chrétienne, le chemin normal de la vie chrétienne, c'est à travers la souffrance vers la gloire. C'est le chemin que Christ a emprunté. Et je termine avec ce beau passage du livre de l'Apocalypse, chapitre 21, versets 1 à 4. Vous pouvez fermer les yeux puis juste écouter, laisser la parole de Dieu rentrer dans vos cœurs. Ça, c'est notre trajectoire, les amis. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » Amen. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons t'adorer, nous voulons te célébrer parce que tu es Dieu, Seigneur. Et lorsque la somme des souffrances dans nos vies fait que tout perd son sens, Seigneur, qu'on a l'impression que tu es loin de nous, par la foi, nous savons que tu es près de nous. Que tu communies à nos souffrances parce qu'en toute chose, Seigneur Jésus, tu as été éprouvé comme nous. Tu as souffert comme nous, Seigneur. Et donc, tu peux communier, tu peux avoir compassion de nos souffrances. Seigneur, viens nous apprendre comme Église, à souffrir, à se préparer pour la souffrance. Viens nous apprendre comme Église, Seigneur, à choisir la joie petit à petit, devant les épreuves plus petites et plus grandes de la vie, choisir la joie en toi, Seigneur. Viens nous enseigner, nous équiper comme Église. Et Seigneur, en terminant, je veux te prier pour les milliers de chrétiens à travers le monde qui vivent dans des circonstances tellement plus difficiles que nous, où il y a tellement plus de souffrance que nous. Sois là, Seigneur, avec eux en ce moment, à l'instant, Seigneur. Fortifie-les par ton esprit. Remplis leur cœur d'une joie, d'une paix profonde, parce qu'ils savent que notre trajectoire, c'est la gloire après la souffrance. C'est en Jésus que nous prions, Père. Amen.